Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-21h, Top of the Foot.
Spécial UEFA Euro 2020, Mohamed Bouafsi, Jean Huitour.
Il est 20h, dernière heure de Top of the Foot consacrée uniquement à l'Euro. On est à deux jours du début de la compétition. Coach Courbis nous rejoint. Salut coach.
Salut Roland à tous.
On va revenir sur le match des Bleus avec toi, bien sûr, sur ce qui se passe en Espagne avec toujours cette menace de cluster avec le cas positif pour Sergio Busquets. On en est à 11 réservistes appelés désormais. Fred Hermel va nous raconter en détail la situation tout à l'heure à 20h30. Ce soir, le Portugal joue face à Israël. 20h45, coup d'envoi de cette rencontre. On est très intéressé par les Portugais, adversaires des Bleus à l'Euro. Benoît Boutron viendra nous parler de cette rencontre en détail. Et puis, on vous offre vos vacances sur RMC, une semaine dans un club bel en bras. Un séjour d'une valeur de 2000 euros. Pour tenter de gagner ces vacances, vous envoyez vacances justement par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. On commence par donc les Bleus. Coach, ton avis sur ce que tu as pu voir hier. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été marquantes. La blessure de Benzema, le doublé de Giroud, les déclats de Giroud après le match sur le fait qu'il a fait quelques appels sans être servi dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il visait Kylian Mbappé sur ce coup-là? En tout cas, il a bien mis en avant ceux qui ont réussi à le trouver sur ces deux buts. On va commencer par quoi? Par Benzema, coach, la blessure.
Comme tu veux.
On rappelle déjà les infos, Mohamed. Les infos toutes fraîches.
C'est que ce sont des informations toutes fraîches. En tout cas, il n'y a pas de réelle inquiétude. Son muscle a dégonflé dans la nuit. C'est une grosse béquille. Ça allait d'ailleurs mieux cet après-midi et ce matin. 48 à 72 heures d'arrêt, de repos pour que le muscle dégonfle. Et dans tous les cas, il ne devait pas s'entraîner aujourd'hui puisqu'il faisait partie des titulaires. Et donc, il n'y a pas de réelle inquiétude autour du staff de l'équipe de France et aussi dans l'entourage de Karim Benzema.
Oui, mais disons que bon, plus de peur que de mal, d'après ce que j'entends, puisque une béquille, j'ai toujours pensé que c'était quelque chose qui pouvait être pas grave du tout, voire même très grave. Donc c'est pour ça que
ce qu'on explique dans son entourage, c'est qu'il s'est arrêté au très bon moment. Quand tout de suite il a eu le petit coup, il s'est arrêté.
Oui, mais même je pense. Alors après, c'est facile de parler après. Quand j'ai vu que, bon, dans un match de préparation, en plus, les 35 premières minutes de ce match, autant du sien aussi, sont pas mal du tout, et qu'on a mis cette élastoplace, là, sincèrement, quand j'ai vu qu'on lui bandait, il ressemblait à une momie, et qu'il rentrait sur le terrain, j'avais l'impression qu'on était en finale de la Coupe du Monde. Donc, je vois même pas pourquoi il est rentré, mais enfin, bon, après, c'est facile de critiquer, mais si justement il risquait de se faire mal à cette béquille, une béquille c'est comme un coup de marteau qui te après t'écrase le muscle et qui te fait un hématome, et cet hématome il faut évidemment qu'il s'évacue facilement. Donc c'est pour ça que dire qu'une béquille c'est rien du tout, ça dépend aussi quel genre de béquille
et oui, c'est ce que Deschamps a dit juste après le match,
quel coup tu as reçu. Si ouais. Évidemment tu prends un petit coup de marteau sur un muscle, OK, ben c'est une béquillette. Si tu prends un gros coup de marteau et que justement ça fait une boule, il faut être inquiet que de cette boule-là, c'est tout.
Alors, en plus donc de cette blessure, ce qui s'est passé, c'est donc le remplacement de Benzema par Olivier Giroud, qui a donc inscrit un doublé. Et s'en est suivi des déclarations que tu vas pouvoir nous analyser, coach. Donc Giroud, qui répondait à nos confrères de la chaîne L'Équipe, à qui on a demandé, juste après son doublé, mais en fait, pourquoi avant ce doublé, on avait du mal à le trouver? Pourquoi il a fait une entrée en jeu discrète? Réponse d'Olivier Giroud.
Parce que des fois, on fait des courses, mais les ballons n'arrivent pas, j'ai envie de dire. Après, je prétends pas toujours faire les bons appels, mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface. Et pour le coup, j'ai eu de bons ballons de Ben et de Wissam, et j'ai pu bien finir.
Et réponse de Didier Deschamps également. On l'écoute et après, Mohamed, tu nous expliques le contexte.
Si les ballons arrivaient à chaque fois sur les appels, des fois, c'est toujours pareil. L'attaquant, il dit « je fais », mais ça vient des milieux. Les milieux, ils vont dire que c'est les attaquants. Non. Après, vous faites les débats, mais non, il le dit, ça peut arriver. Mais ce n'est pas stigmatisé sur Kylian ou sur qui que ce soit. Olivier n'a pas le même profil que Karim. Et il a une position plus axiale de pivot, alors qu'en première mi-temps, bon, les trois, ils pouvaient permettre de se retrouver dans n'importe quelle zone. Avec Olivier, dans son profil, il a une position plus axiale.
Mohamed,
plus fixe.
Alors, juste, on peut rappeler que Didier Deschamps est revenu pour s'exprimer au micro de nos confrères de l'équipe sur ce sujet. Il est très malin, il est très fort pour éteindre toute forme de mini polémique. Il a été très malin hier, Didier Deschamps. Concernant les propos de Olivier Giroud, pour m'être renseigné, il n'a pas forcément apprécié le ton et la question du journaliste qui semblait un peu remettre en question encore une fois sa performance ou sa présence. C'est comme ça qu'il l'a un peu vécu. Et c'est pour ça, Roland, qui lui a répondu de cette manière. En gros, il s'est dit, et toi tu connais un peu Olivier Giroud aussi, Roland, il s'est dit, je viens de mettre deux buts encore et on me dit que je suis pas bon, je suis pas à la hauteur pour être là.
Bon.
Et il a un peu mal vécu et qu'il n'y avait pas d'attaque directe sur, par exemple, Kylian Mbappé. En revanche, il estime qu'à plusieurs reprises, le ballon aurait pu arriver un peu plus vite. Et que, par exemple, Pavard ou un Ben Yedder sont capables de centrer très rapidement dès qu'ils ont le ballon.
Sincèrement, je veux bien qu'on fasse un débat là-dessus. Je vois rien d'important, je vois rien de grave. Si ce n'est que, bon, ben évidemment.
L'attaquant qui se plaint de ne pas être servi, c'est un truc classique.
Ouais,
qui arrive
mais
tout
bon,
le temps.
Mais en plus de ça, donc, Giroud, c'est un point de fixation. Ce n'est pas un gars avec qui tu vas demander de permuter de droite à gauche, de gauche à droite et tout. C'est un point de fixation, c'est un repère, c'est comme une cible pour ses partenaires, pour arriver à l'atteindre. Et puis après, il est présent avec donc cette présence athlétique. C'est totalement différent de Benzema. Et en plus, qu'il puisse se plaindre de ses coéquipiers qui peut-être ne l'ont pas vu faire tous ces appels, il peut s'en plaindre pour améliorer les choses. Toujours est-il que bon, c'est un gars utile. Maintenant, ce qu'on a fait, ou plutôt ce qu'on n'a pas fait dans tous nos débats, c'est envisager qu'un jour, en cours de match, il puisse y avoir, on l'a vu il y a quelques années et ça avait bien marché, puisqu'il y a quelques années, les débats c'était Benzema ou Giroud, Giroud ou Benzema, et si tu te rappelles...
Un match, Roland, que tu nous donnes à chaque fois, ça n'a pas vraiment marché les deux ensemble.
Il y a encore un match,
c'était contre.
Non, en 2014, il y a un peu plus qu'un match quand même, où ils jouent ensemble.
Contre le Nigeria, c'est pas bon.
Ils jouent le Nigeria, ils jouent la Suisse.
La Suisse, c'est le
premier match. Ça marche bien. Je veux dire par là que si après, parce que le Nigeria, ça marche moins bien, qu'on élimine totalement la possibilité d'avoir.
Et tu veux dire que Benzema joue sur un côté?
Non!
Les deux à côté.
En retrait, si par exemple tu termines un jour un match.
Et Griezmann, tu le mets où?
Attends, laisse-moi finir quand même. Si tu me coupes à chaque mot, je peux même pas faire la moitié d'une phrase.
Tu as raison.
Donc, en ce qui concerne Giroud qui rentre, il n'est pas obligé, Giroud, de rentrer. C'est pas un règlement que Giroud doit remplacer Benzema. Donc, Giroud, il peut rentrer. On garde Benzema dans un 9,5 qui tourne autour de Giroud. Tu mets Griezmann à droite et Mbappé à gauche. Eh bien, ce règlement qui interdirait ce quatuor, dommage qu'il existe, parce que sinon ça aurait été intéressant de pouvoir le mettre.
C'est un règlement que s'inflige Didier Deschamps.
Ouais, mais là, on te dit que tu mets pas les joueurs dans les meilleures conditions. Tu mets pas Griezmann à son poste, tu mets pas Mbappé.
Je suis à 30 minutes d'un match. Nous avons vécu quand même une mi-temps dans un France-Irlande du Nord où finalement nous sommes passés en 4-2-3-1 avec Griezmann qui est devenu un 9,5 très intéressant pour notre équipe de France. Derrière toutes ces années de débat, après il pouvait plus y avoir de débat, puisque Benzema n'était plus sélectionné. Donc, un duo offensif de deux numéros 9 aussi différents que complémentaires, c'est pas interdit du tout. Donc ça, on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Mais peut-être qu'on le verra. Que Didier démarre son match.
Parce que Deschamps estime qu'ils sont pas complémentaires.
Contre l'Allemagne. Mais il ne peut pas dire qu'ils ne sont pas complémentaires. C'est l'équilibre de son équipe qui va pas. Tu ne peux pas dire qu'en football, Giroud et Benzema ne sont pas complémentaires. Tu vas te faire rire à ta gueule. Donc, si tu veux, après.
C'est trop offensif pour lui.
Voilà. Que toi, tu ne veuilles pas les mettre. OK. Mais si, par exemple, tu as un 4-2-3-1 avec Giroud en pointe, point de fixation, Benzema qui se balade, tu vas pas me dire que le vrai poste de Benzema, c'est comme on a eu pendant des années, et on a même battu un record de 1000 minutes, je ne sais pas combien, que Benzema n'a pas marqué. C'était dans un 4-3-3 oui. Avec Benzema tout seul dans l'axe.
Moi, je pense que c'est une mauvaise idée, parce que la force de Benzema, c'est de lancer en profondeur, c'est de sublimer les autres joueurs, comme il l'a fait au Real, ou comme il peut finir les actions. Et il ne va pas lancer en profondeur Olivier Giroud. Ce qu'il faut pour Karim Benzema, c'est soit profiter du talent et de la vitesse et de la spontanéité, la percussion des autres joueurs qui sont à côté de lui, soit de finir les actions. Il va pas lancer en profondeur Olivier Giroud. Mais tu peux marcher.
Je me suis mal fait comprendre, quoi. Quand c'est que j'ai parlé de lancer pour.
Mais non,
Giroud
mais
en
moi, moi, que, moi, je pense que ça ne peut pas marcher, Giroud et Benzema.
Mais, tu penses
ce que tu veux. Je suis en train de te dire que Benzema, c'est pas obligatoirement Benzema ou Giroud, Giroud ou Benzema. Il peut y avoir aussi une autre formule qui est pas inintéressante avec les deux, le jeu de tête, le jeu athlétique de Benzema et la finesse de Giroud et la finesse limite, de Benzema.
Cette association, elle est pas tout à fait à l'ordre du jour, donc laissons ça de côté. Voilà, on sait jamais. Ouais. Voilà. Mais juste quand même ce que dit Giroud. Est-ce qu'il y a pas un mal-être un peu plus global selon vous de dire que depuis qu'il est de retour, il y en a que pour Benzema sur le terrain quand Benzema et là, Mbappé ne fait que le chercher. Quand lui rentre, bah, il a l'impression qu'on lui fait plus de passe. Deschamps a dit, avec son temps de jeu, bah, il va être sur le banc très souvent, sous-entendu, qu'il profite de ces quelques minutes et c'est tout. Là, il se retrouve à devoir jouer davantage parce que Benzema est blessé. Est-ce qu'il n'y a pas un peu tout ça dans les mots de Giroud ?
Jean-Louis, le mal-être, il n'est pas forcément
sur... J'exagère un peu, là, j'interprète
non,
trop.
Je pense que, c'est pas que tu interprètes trop, pardon, c'est que le mal-être, il n'est pas forcément sur Benzema. Le mal-être de Giroud, c'est... Comment tu fais pour passer de numéro 1 il y a encore quelques semaines où t'es le big boss de l'attaque des Bleus avec Benzema, avec Mbappé, Griezmann, quand je dis boss, mais en tout cas t'es le numéro 1 mm-hmm. au poste de numéro 9. Et là, t'as cette petite musique depuis quelques jours de dire que Benzema, c'est le numéro 1. Ça, il n'y a pas de débat. Je pense que Giroud l'accepte. Je pense que Giroud s'est dit, voilà, toute la France attendait Karim Benzema. Je l'ai rencontré vendredi dernier et je l'ai interviewé. Il sent que la France avait besoin du retour de Karim Benzema. Il l'accepte, mais c'est un compétiteur. Mais c'est pas cette petite musique qui lui fait du mal. C'est la petite musique de dire, ah, mais tiens, à la 65e minute, si Benzema sort, bah, ça doit être Coman ou Dembélé qui rentre et Mbappé qui va en pointe. Et en gros, Giroud, au lieu de passer, d'être numéro 1, il passe à numéro 3, numéro 4 derrière Benzema, Mbappé, Griezmann, Coman, voire Dembélé, et là tu mets Giroud. Et c'est ça qui l'embête.
Mais s'il est un peu en travers, on se met à sa place. Moi, si je suis à sa place, je suis pas content de la même façon que je suis pas content.
Oui,
je comprends. C'est tout. Donc, évidemment que je le comprends. Et ensuite, bon, nous avons maintenant une équipe de France que j'attends avec impatience de plus voir cette équipe de France dans ces matchs de préparation qui, pour moi, sont toujours inquiétants, et notamment des blessures. Mais j'ai peut-être porté la scoumoune en disant ça, en espérant que c'est pas grave pour Karim. Maintenant, j'attends avec impatience de voir notre équipe de France avec ce 4-3-3, donc avec des joueurs qui permettent...
Oui, parce que là, l'idée du losange Griezmann derrière deux attaquants, on l'a pas vu hier.
Pas du tout.
Donc
on l'a pas vu du tout. Donc là maintenant,
surtout quand Benzema est sorti, effectivement, voilà, là c'était vraiment fixe.
Nous étions dans un 4-3-3 avec attaquant côté droit Griezmann, attaquant côté gauche. Après que les trois peuvent permuter, OK, mais chacun devait être dans cette zone-là.
Et quand Benzema est sorti, il n'y avait plus aucune permutation, hein. C'était Mbappé à gauche, Griezmann à droite et c'était fini.
Et puis en plus là, c'est le point de fixation là, c'est vraiment pour le rôle et le profil de Giroud. Point de fixation, ça lui va très bien.
Oui, parce qu'on estime surtout, j'ai l'impression qu'on estime naturellement.
Point fixe.
J'ai l'impression qu'on estime naturellement que Giroud n'est pas capable. Certes, il a moins de talent intrinsèquement que Benzema, mais de là à dire que Mbappé ne peut pas
combiner
avec Giroud, ça, c'est quand même assez blessant pour Giroud, je peux l'entendre. Giroud, c'est pas non plus un joueur de Ligue 2, de National, c'est un excellent joueur qui est aujourd'hui le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.
Mais chaque fois qu'on dit quelque chose, vous répondez habituellement, ils ont été champions du monde avec Giroud et Mbappé, donc c'est pas il y a 10 ans.
Non, mais c'est vrai que t'as pas l'impression hier, quand Giroud entre, que Mbappé a envie de combiner avec lui, naturellement. T'as l'impression qu'ils n'ont pas de lien technique.
Mais ils n'échangent que deux passes hier.
Oui, mais bon, Mbappé, il fait un match, moi je trouve, intéressant dans les 30-35 premières minutes. Coïncidence, quand il sort Benzema, il est moins bon. Et finalement, ça fait...
Il en fait un peu trop, en fait.
Voilà, dans un souci de bien faire, il en fait peut-être parfois un peu trop, mais bon...
Alors Mathieu est là au 32-16.
J'ai déjà vu des choses plus graves.
Salut Mathieu. Bienvenue dans ton club de foot.
Salut Mathieu.
Alors, t'en as pensé quoi du match de Giroud et de sa sortie ?
Moi, je pense que quand on sort Benzema, il faut sortir Mbappé, faire rentrer Ben Yedder pour qu'il fasse des passes décisives à Giroud. Quoi. Enfin, je rigole, c'est une petite blague. Mais franchement, on sait très bien le statut qu'il a Giroud, et je pense qu'il le sait aussi. C'est un remplaçant aujourd'hui de luxe, parce que c'est quelqu'un qui peut apporter un autre système à Didier Deschamps. Il sera pas titulaire, ça c'est clair et net. Benzema, c'est dans la tête de Deschamps et c'est dans la tête de tous les Français. On sait très bien que c'est le meilleur joueur actuellement français en attaque, quoi. Et par contre, voilà, je pense que c'est un petit coup de gueule pour dire quand même, je suis champion d'Europe, j'ai été champion du monde, vous me devez un peu de respect. Et moi, je le comprends aussi quelque part, parce que c'est vrai que quand tu fais 10 000 appels et qu'au final, bah, tu reçois deux ballons de ton soi-disant leader technique qui vient de Mbappé, alors qu'avec Benzema, ça combine bien, bah, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Moi je comprends Giroud là-dessus. Maintenant, il n'y a pas à en faire un débat de fou, quoi. Ça va s'arranger, ça. Là, moi, je pense vraiment que déjà, on fait tout un système avec 10 milliards de compos. Je suis d'accord avec la compo de Momo, moi, depuis le début avec Dembélé. Quitte à changer notre milieu de terrain et à mettre Pogba et Kanté, quoi. Pour moi, ce compo, elle est magnifique, Momo, bravo.
Ouais, mais c'est, en plus, Mathieu, les deux évoluent comme ça dans leur club. Alors Kanté, ouais, il joue à côté de Jorginho à Chelsea. Pogba, il adore jouer à deux avec Kanté à côté de lui. Elle est formidable, ouais, cette compo. Je la regrette.
C'est un
4-4-2, oui, voilà, un 4-4-2 avec Benzema en pointe, Griezmann juste derrière, sur le côté gauche, Mbappé, à droite, Dembélé, pour moi, Dembélé, ou Coman, mais plutôt Dembélé, selon moi, et avec Kanté et Pogba.
Ah ben, c'est sûr qu'elle est magnifique.
Non, mais je trouve qu'elle t'offre beaucoup de certitudes.
Mais ça, dire qu'il y a des certitudes. Oui, Deschamps, il ne le fera jamais. Mais il y a quatre offensifs.
Non.
En plus, quatre offensifs, pas disciplinés.
Mais c'est pas parce que Deschamps fait pas qu'elle nous offre, pour moi, pas de certitudes. Elle crée une relation technique entre Pavard et Dembélé.
Il ne fera jamais ça avec des joueurs aussi offensifs.
Eh bien, alors, moi, je vous prends.
Parce que là, c'est Mbappé Dembélé dont vous parlez sur les côtés. C'est pas Lemar ou, voilà.
Je vous prends les paris que cette équipe-là, avec ses quatre offensifs, ce 4-2-3-1, que un petit peu de rêve.
Ouais.
Donc évidemment, mais c'est un rêve, mais pour un départ. Mais rentrer en cours de match et deux joueurs ou un joueur,
oui, mais ça, bien sûr,
et passer
cours de
dans les 30 dernières minutes,
ça, bien sûr,
dans cette formule-là, ne dites pas qu'on ne le verra jamais.
Ah, je dis pas ça, mais au coup d'envoi, ce sera un nouveau Deschamps. Il faudrait qu'il y ait une illumination.
Nous avons Tolisso et Rabiot qui se partageront le Matuidi de notre époque.
Mathieu, merci d'être venu au 32-16. À
bientôt. Merci beaucoup, Mathieu.
Le milieu de terrain,
j'espère qu'on ne la verra jamais non plus, cette compo, parce que ça voudra dire qu'on sera en difficulté pendant un match. Et Deschamps a des certitudes quand même avec son milieu de terrain à 3.
Mathieu, le milieu de terrain.
Non, mais il y a quand même un truc qu'il
faudra. Reste avec nous, Mathieu, si tu veux, pour parler du milieu dans un
instant. Il y a quand même un truc qu'il faudra passer, mais on a le temps, puisque le match, c'est que mardi. C'est qu'on n'est quand même pas habitués, nous, dans les dernières compétitions, à avoir des adversaires comme nous avons d'entrée, Allemagne, la Hongrie, qui est quand même une équipe emmerdante, et le Portugal, champion d'Europe.
Bien sûr.
Donc c'est pas Honduras, Équateur et les Suisses.
Hein. Mathieu, reste avec nous, puisque tu veux parler du milieu de terrain, on va le faire dans un instant. Est-ce qu'on a trouvé le milieu qui va commencer l'Euro? Est-ce que celui qu'on a vu hier, ce sera celui de l'Euro? Rabiot n'était pas là hier, c'était Tolisso, Kanté, Pogba. Et est-ce que, coach, ça t'a plu de voir ces trois-là organisés comme ça? J'ai déjà un peu une idée de la réponse, mais on l'a dans une seconde, la réponse. À tout de suite.
Top of the Foot
spécial UEFA Euro 2020, Mohamed Bouafsi, Jean Huitour.
20h19, c'est Top of the Foot spécial Euro avec coach Courbis. On vous dira la situation en Espagne après le cas positif concernant Busquets avec Fred Hermel à 20h30. On lancera également Portugal-Israël, le match du soir à 20h45. Et puis on est à Roland-Garros. Eric Salio est là pour le match de Djokovic face à Berrettini, le quart de finale. Salut Eric.
Salut Eric.
Salut à tous.
Il n'avait pas le casque sur les oreilles. Hein. On l'a entendu au dernier moment. Allez hop, on met
session
le casque.
Session de nuit historique parce qu'il y a du monde dans les tribunes et croyez-moi, ça change tout. L'atmosphère est
festive. Ça fait 10 jours que tu nous en parles.
Non, les gens boivent des coupes de champagne avant d'entrer sur le central. Ça promet une belle soirée. Maintenant, le match, on va voir ce que ça va donner. Hein. C'est parti depuis 18 minutes. 2-1 pour Novak Djokovic. Pas de break, mais Berrettini, on le connaît. C'est un sacré gaillard, physiquement, athlète. Gros coup droit. Et le public apprécie déjà le spectacle. 2-1 Djokovic et 30-15 au service de l'Italien.
Merci Eric. Mathieu est toujours là au 32-16. On est sur le bilan de la victoire hier, 3-0 des Bleus face à la Bulgarie. Le milieu de terrain, on a beaucoup parlé de l'attaque, l'animation. Kanté devant la défense, Pogba à sa droite, Tolisso à sa gauche, même s'il y a eu quelques libertés accordées. Qu'est-ce que tu en as pensé, coach, de ce milieu de terrain? Est-ce que selon toi, les trois vont débuter face à l'Allemagne?
Vraisemblablement, oui, même si ça va se jouer entre Tolisso et Rabiot. Je suis agréablement surpris une fois de plus par le changement, je dirais même la métamorphose de Pogba quand il retrouve son équipe de France. C'est quand même un joueur surprenant de talent, que ce soit techniquement, que ce soit athlétiquement, physiquement. Là, même sur le côté droit, qui n'était pas son bon côté, eh bien, il s'est débrouillé à sortir un très bon match. Là où je suis surpris quand même, par rapport au match de préparation, c'est à l'importance que peut avoir Tolisso. Ouais. Déjà, par rapport à ses qualités, ok, je le voyais pas aussi énorme aux yeux de Didier. Et ensuite,
il adore
un joueur qui est quand même resté très longtemps sans jouer, et pour arriver à être présent dans une compétition comme l'Euro ou une Coupe du Monde avec des matchs rapprochés et tout, sincèrement, je pense que ils se partageront le boulot avec Rabiot, mais ça sera très compliqué de faire retrouver le rythme de la compétition et le rythme tout simplement d'un match de très haut niveau, c'est-à-dire d'un match international quand tu joues l'Euro, de tout l'histoire. Après,
il joue une heure contre le Pays de Galles et hier il sort à 5 minutes de la fin. Donc,
ouais, donc ouais, c'est pas mal. En plus, avec combien de jours au milieu, 4-5 jours, non,
5, je dirais, ouais.
C'était un peu plus. Ils ont joué contre. Ils ont joué hier, donc on était mardi, et ils ont joué mercredi dernier, c'est ça?
Je sais plus. Et puis pour moi c'était 5 jours, mais je sais plus.
Ouais, j'ai passé 5 jours.
Non, c'était mercredi, puisque j'ai dit vendredi à Didier Deschamps il y a 2 jours. Donc c'était mercredi, donc ça fait quasiment une semaine.
Très bien.
Ouais, bon. Donc maintenant on a encore une semaine pour atteindre le match contre l'Allemagne. Mais ils seront évidemment.
Après, la question, c'est la position de Kanté. Est-ce que la position de Kanté devant la défense comme ça, c'est pas un peu du gâchis?
Moi, je trouve Roland, excuse-moi, j'ai anticipé ta réponse, Roland. Mais hier, j'ai trouvé que tout était propre. Et Pogba, c'est un formidable joueur. Quand il est en équipe de France, tu l'as dit, Roland, je te rejoins entièrement. Pogba, il devient différent. Il est changé en équipe de France. Il a le sourire. Je l'ai croisé vendredi. Il est heureux d'être là. On sent qu'il est heureux d'être avec ses potes. C'est un autre joueur et c'est un autre très grand joueur. On retrouve le vrai Pogba. En revanche, j'ai trouvé que tout ce qui a été fait par le milieu de terrain hier, c'était très propre, c'était très simple, mais je regrette de ne pas avoir Kanté plus haut. Je regrette de ne pas inverser Tolisso et Kanté. Kanté, je veux voir celui de Chelsea. Je veux voir le Kanté qui est capable de se projeter vers l'avant. Et peut-être, Jean-Louis, tu vas me dire, mais c'est une certitude encore Didier Deschamps, mais celle-là, je la regrette aussi et peut-être qu'on gagnera derrière avec ce système-là et on dira tous bravo Didier Deschamps. Voilà, et Didier Deschamps, de toute façon, est le meilleur à son poste. Mais Kanté, il est capable de casser des lignes.
Ça peut se corriger sans problème.
Ça lui a pas échappé à Didier, ça. Donc,
oui, j'espère, mais c'était la même chose.
Mais justement, là, est-ce qu'il n'est pas en train de noyer le poisson dans un 4-3-3, présenté dans un 4-3-1-2, ou le losange, pas le losange. Là, excusez-moi, j'étais peut-être pas terrible en géométrie, mais comme on a dit tout à l'heure, le losange hier, je ne l'ai pas vu. Une minute, ou alors.
Tu voulais dire un mot sur Kanté?
C'est-à-dire que là, habituons-nous peut-être qu'il est en train de noyer le poisson et que finalement, dans son esprit, ça sera Rabiot ou Tolisso dans le rôle de Matuidi sur la gauche de notre organisation et ensuite un duo Pogba-Kanté devant la défense qui se partageront le boulot de 6 qui devient 8 chaque fois qu'on a le ballon à tour de rôle, mais qui est toujours un des deux qui reste par prudence.
Sans doute. Mathieu, tu voulais dire?
On n'a plus besoin de moi sur cette antenne parce que Momo, t'as encore dit ce que je voulais dire.
Incroyable.
Par rapport à Kanté Tolisso, moi c'est je pense que Tolisso Mathieu. Devant la défense, ça aurait été mieux parce que Kanté, on le voit à Chelsea, quand il se projette, c'est mortel quoi. Ça produit du jeu. Maintenant en plus, il fait des passes monstrueuses dans les surfaces et tout ça. Et après, je pense, coach, t'as raison. Ils vont permuter naturellement en fait. De toute façon, on voit bien qu'ils se connaissent maintenant les joueurs. Ils savent que quand un monte, l'autre descend et défend, etc. Donc je pense qu'en fait ça va jouer fractionné comme ça. Un coup c'est un coup c'est l'autre. On voit que Pogba hier, il a été monstrueux et qui peut nous apporter aussi énormément dans ce milieu de terrain, notamment dans les actions dangereuses. C'est toujours lui qui les crée avec ses transversales et tout ça. Donc voilà. Moi je pense qu'il faut pas paniquer. Il faut pas revoir 2002, l'histoire de la béquille de Benzema, je sais pas quoi. Un coup, tout ça, il faut vraiment les encourager.
2002, c'était pas une béquille, c'était un peu plus grave que ça, la cuisse de Zidane. Ouais. Donc, à mon avis, t'inquiète pas, on n'est pas sur la même idée. Salut Mathieu.
Je pense qu'il faut les encourager et aller les bleus et on va aller au bout, c'est clair et net. Quoi.
Salut Mathieu.
Avec nous, ça va aller.
Ne raccroche pas, Mohamed, t'envoie son RIB immédiatement.
Génial, Mathieu. Franchement, j'ai envie de dire, Dag et Monégou. Franchement, t'as été génial. T'as été génial, ouais.
Allez, salut Mathieu.
Ça,
salut
ça,
Mathieu.
Ça, c'est un excellent conseil. Ouais, merci. Il est formidable.
Merci Daguemounegou. Dans une seconde, l'Espagne. L'inquiétude continue de monter en Espagne après les cas de Covid. Fred Hermel va tout nous raconter dans une seconde. Et puis on lance Portugal-Israël, match de préparation du soir. Benoît Boutron nous dira déjà la compo du Portugal. Ça va être très intéressant en vue du match face aux Bleus à l'Euro. À tout de suite.
20h-21h. Top of the Foot.
Spécial UEFA Euro 2020. Mohamed Bouafsi, Jean Louis.
Il est 20h30, Top of the Foot, spécial Euro à deux jours du début de la compétition avec Coach Courbis. On va tout vous dire sur Portugal-Israël dans un instant. On va aller en Espagne également. Je vous rappelle qu'on vous offre vos vacances sur RMC. Vous pouvez encore vous inscrire en envoyant vacances par SMS au 732-16. Le gagnant d'ici à 21h dans Top of the Foot. Le tennis, où en est Novak Djokovic, Eric Salio?
Écoute Jean-Louis, j'ai l'impression que Novak Djokovic digère mieux les linguinés à la Berrettini que les spaghettis à la Musetti, puisqu'il y a 3 jeux 1 pour le numéro 1 mondial. Il a un break d'avance et il a une balle de 4 jeux 1 au moment où on se parle, avec un Berrettini qui commet quelques fautes. Et là, Djokovic réclame l'arbitre parce qu'il est convaincu que la balle est sortie et ça devrait faire 4-1 si James Kyotavong confirme l'impression. Et non, monsieur Djokovic, ça n'a pas fonctionné.
Il part tout seul, lui.
Ah, il a voulu voler un point, entre guillemets, mais ça fait donc 3-1, 40-1.
Il a mis 2-7 à digérer tes pattes précédentes, hein, ouais, contre Musetti.
Dis-moi, Titi Passe, t'y crois?
Ah, bah, on y est toujours dedans. On y croit toujours un peu, bien sûr. Eric m'a fait jouer Titi Passe.
Toi, après, tu peux arrêter ta carrière parce que t'as joué une grosse somme.
Moi, j'ai joué. Enfin, il a donné Zverev
si
à
ça,
Jimmy
Brown. Si ça tombe, c'est magnifique, Eric, effectivement. Mais bon, c'est compliqué, non?
Hein?
Même si bah Nadal a lâché un set aujourd'hui là.
C'est comme si c'était fait, Jean-Luc.
Ah, c'est comme si c'était fait,
oui,
carrément.
Oui. Oui.
D'accord. Déjà, il passe la demi, tu y passes?
Bien sûr.
Sans problème.
Non, en revanche, il y a une stat qui m'embête, Jean-Louis.
Oui.
C'est que à chaque fois que Nadal a atteint la demi-finale, eh ben, il a gagné le titre.
Oui.
Il a jamais perdu une demi, il a jamais perdu une finale. Donc, en fait, le tournoi est fini.
C'est vrai que pour aller en finale, il faut gagner la demi.
Oui, c'est ça. Merci Eric Salio, et merci pour ces bons conseils. L'Espagne, on rejoint tout de suite Fred Hermel. Bonsoir Fred.
Salut, hola chicos.
Salut Fred.
Ah oui.
Neymar.
On commence par
oui.
Alors, quelle est la situation précise? Déjà, il y a eu un deuxième cas de Covid après Busquets hier soir.
On l'avait prédit.
Diego Llorente, défenseur central espagnol de Leeds, ancien de la Real Sociedad. On sent qu'il y en aura d'autres.
Ah oui.
On sent qu'il y en aura d'autres parce que quand on voit que Luis Enrique a finalement recruté, enfin sélectionné. Alors, en fait, ils ont créé deux bulles. La bulle sanitaire avec ceux qui étaient les premiers convoqués qui ont été en contact avec Busquets et Llorente. Et là, ils ont créé une autre bulle sanitaire avec 17 joueurs, c'est-à-dire 11 joueurs de l'équipe Espoir,
ouais,
plus 6 joueurs comme Bryce Mendes, par exemple.
Oui, les 6 rappelés, là, Albiol.
Ouais, les 6 rappelés, voilà, exactement.
Kepa, etc.
Voilà,
d'accord.
Voilà. En gros.
Mais alors, quelle est la stratégie, enfin, quel est le raisonnement, là?
Bah, le raisonnement, c'est ils sont en train de créer une deuxième équipe si jamais il y a un cluster et qu'il y a 10 joueurs ou 15 ou 20.
Et donc, ils auront le droit d'inscrire les 17
en
question?
A priori, oui. Sinon, ils n'auraient fait pas ça.
D'accord. Voilà. Et il n'y a toujours pas Sergio Ramos dans l'affaire.
Alors,
il est appelé nulle part.
Alors, ça, c'est la situation. C'est qu'aujourd'hui, il y a la crainte d'un énorme cluster qui pourrait affaiblir totalement la sélection espagnole, qui, quoi qu'il arrive, démarre mal l'Euro, parce qu'ils n'ont pas pu jouer le match contre... Ce sont les Espoirs qui ont joué contre la Lituanie. Ils n'ont pas pu faire leur dernier match de préparation. Il n'y aura pas Busquets, qui est un joueur important. Il manquera un défenseur, même s'il n'a pas d'être titulaire. Et puis, ce sont des joueurs qui ne s'entraînent pas vraiment. On sait très bien que quand il y a un risque de Covid, il faut faire très attention. Tu ne peux pas t'entraîner à fond. Donc, la situation est très, très alarmante.
Alors, attends, juste, moi, c'est le détail que je comprends pas, c'est sur les listes. Parce qu'il fallait quand même donner une liste 26. De 26 joueurs.
Oui, mais a priori, là, ils sont en contact, bien sûr, avec l'UEFA, ouais, tout le temps.
Ils ont le droit de modifier cette liste de 26.
Ah bah oui, parce que sinon, l'Espagne ne peut pas jouer.
Il y a quelque chose d'autre que je ne comprends pas, Fred. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on m'avait dit autour de l'équipe de France, c'est qu'on sélectionne 26 joueurs parce que dès qu'un joueur est malade dans la bulle sanitaire, enfin, il a le coronavirus, il sort de la bulle et il ne revient plus avec l'équipe. Donc là, est-ce que cette règle-là, elle vaut pour le premier match de l'équipe d'Espagne? Est-ce qu'elle vaut pour rien du tout?
C'est-à-dire que c'est assez flou parce que, en fait, il y a des calculs qui sont faits. Est-ce que Busquets, parce qu'il est, pas symptomatique, si dans 3 jours il est négatif, est-ce qu'il va pouvoir réintégrer, par exemple, après le match contre la Suède lundi? Enfin, c'est vraiment du à chaque jour suffit sa peine, c'est même à chaque heure suffit sa peine, quoi. Mais bien entendu tout ça se fait en liaison constante avec l'UEFA, c'est-à-dire que l'intérêt de l'UEFA aussi c'est que l'Espagne puisse jouer avec l'équipe A ou l'équipe B, enfin c'est-à-dire qu'il y aura pas de forfait de l'Espagne lundi contre la Suède, mais ils joueront avec une équipe B voire C, quoi. Donc parce que par exemple Bryce Mendes, il y a 3 jours il était à Mykonos, quoi. Donc on parle de l'exemple et on l'a dit, bon, faut que tu reviennes tout de suite. Alors et puis
attention, les équipes qui ont des préparations compliquées comme ça, elles vont loin en compétition.
Oui,
hein. Ça c'est déjà vu.
Hein. Sociedad du Danemark.
Je suis pas sûr qu'il ait respecté les gestes. Je suis pas sûr qu'il ait respecté les gestes barrières à Mykonos en plus.
Tu connais bien Mykonos, toi, j'imagine. Non, donc, enfin, moi, je sais pas, mais si. Tu connais les gestes barrières à Mykonos.
Il connaît tous les endroits.
C'est pour ça, à la mode.
Non, je préfère Santorin, moi.
D'accord.
Tellement plus chic.
En couple.
Mais c'est
ils vont tous se faire vacciner là. Il y a eu une annonce.
Alors cet après-midi, parce qu'en plus il y avait une polémique en disant mais pourquoi est-ce que les footballeurs seraient prioritaires alors que la vaccination n'est pas ouverte à tout le monde en Espagne. C'est-à-dire que quelqu'un de 25 ans aujourd'hui en Espagne ne peut pas se faire vacciner.
Ah oui.
Donc finalement, décision du ministère de la Santé cet après-midi, oui, ils vont pouvoir se faire vacciner avec une seule injection, la Johnson & Johnson, la Janssen comme on dit ici. Bref, l'autre drame, c'est que Luis Enrique, finalement, aura choisi 41 joueurs pour aller à l'Euro. Savez-vous combien de joueurs du Real Madrid, vice-champion d'Espagne, demi-finaliste de Ligue des Champions, ont été convoqués parmi ces 41?
Il n'y en avait aucun sur les 26.
Il y a toujours zéro.
Il y a toujours zéro.
Donc, ce qui fait un...
C'est dingue.
C'est hallucinant. C'est-à-dire que là, le fait de pas prendre Nacho, par exemple, qui a été excellent cette saison, là, le fait de pas... Ramos, il est bien, il est en forme, là. Tu fais pas revenir Ramos, Ramos, c'est peut-être compliqué, le capitaine, mais Nacho. Enfin, je veux dire, tu prends des joueurs comme
Albiol. Il se dit qu'ils ont trop d'ego, les joueurs du Real, pour venir en complément dans la deuxième bulle sanitaire.
Mais Nacho.
Mais c'est
peut-être ça, il était remplaçant toute sa vie, Nacho. Nacho, c'est le mec le plus sympa.
C'est plutôt qu'Enrique, c'est Barça, non?
Mais c'est surtout anti-Real, ancien du Real, mais qui voilà, est très raison, fâché avec le Real. Luis Enrique, avant de jouer au Barça, il joue au Real.
Mais tu peux pas être sélectionneur de l'Espagne et ne pas prendre de joueurs du Real parce que tu les aimes pas quand même.
C'est ce que Fred
te dit. Ce n'est pas possible.
C'est la preuve.
Mais
voilà.
Je peux pas croire.
Mais il est aussi dans une fédération qui est en guerre avec le Real. Donc c'est ça le truc. Mais alors, et ça,
Luis Enrique, c'est pas sa première grande compète avec l'Espagne. Ah si.
Excusez-moi.
Ça me paraît fou.
C'est totalement fou. 41 convoqués, 0 du Real Madrid. C'est du jamais vu dans l'histoire du foot espagnol. Mais ça, c'est bon pour l'équipe de France.
Ah bon?
Oui. Parce que les madridistes, les supporters du Real, commencent à se dire que leur équipe va être l'équipe de France et puis l'Espagne.
Ah, Benzema,
Eh bien, aujourd'hui, alors je ne peux pas dire le nom, mais j'ai parlé à quelqu'un qui travaille au Real Madrid, et cette personne me dit, tu sais, dans notre service, on a discuté.
On vient en maillot bleu.
On nous a dit, alors qu'est-ce qu'on va soutenir? Parce qu'on ne peut pas soutenir l'équipe qui n'est plus l'équipe d'Espagne, mais l'équipe de Luis Enrique. Il dit, allez, pour Karim Benzema, on va soutenir l'équipe de France. Et cette personne m'a appelé pour me raconter ça aujourd'hui. Et je vois sur les réseaux sociaux où les madridistes que je croise dans la rue, etc., parce que j'habite pas loin du Bernabéu, donc j'en rencontre souvent, et ben c'est un mouvement. Alors, je vais pas dire que c'est une vague, mais c'est un petit mouvement à Madrid qui est en train de naître, que les gens vont pas soutenir l'Espagne, mais les madridistes vont soutenir l'équipe de France pour Karim Benzema.
Bon, très bien. Donc ça fait plein de soutien.
Tu crois pas, Jean-Louis, à l'histoire de Luis Enrique, toi?
En fait, ça me paraît trop gros.
Non, mais tu crois pas.
Comment tu peux entraîner l'Espagne et te couper de la moitié d'une équipe? Je sais pas.
Mais c'est purement personnel. Et Luis Enrique déteste le Real. Il est mal terminé au Real, comme beaucoup de joueurs. Sauf que lui, il est plus rancunier que les autres. C'est incroyable.
À part Nacho, le cas Ramos, tu verrais qui?
Asensio.
Asensio.
Franchement, si tu prends Bryce Mendes, tu peux prendre Asensio.
Ouais.
Excuse-moi, il n'y a pas d'explication logique. Il n'y a pas d'explication logique.
Et Carvajal. Non, il est encore blessé.
Il est encore blessé.
Isco, il n'a pas le niveau
pour. Mais il y avait au moins trois joueurs, surtout deux. Après, je comprends Ramos. Enfin,
c'est Ramos. Il n'y a que Ramos de choquant, là. Le reste, on ne va pas faire un scandale d'état.
Ramos, tu ne peux pas l'écarter, le faire revenir après, ça faisait bizarre. Mais Nacho et Asensio devaient être dans la liste d'urgence. Ça, dans ceux qui ont été rappelés là.
Bon, très bien. Fred, merci.
Oui, donc l'Espagne, Madrid est derrière l'équipe.
Tu le remercieras, le mec qui t'a appelé pour dire qu'il était derrière nous. Hein. Nous, on le prend.
C'est pas un mec, c'est une femme, mais c'est pas grave.
Ah, la chef de presse.
Quoi? Je n'ai pas dit ça.
Bon, c'est la chef de presse alors.
Bah, je pense.
J'ai pas dit ça.
Ah oui, c'est la chef de presse.
Raquel. Mais non, non. Mais attends, mais il y a plus d'une femme qui travaille au Real Madrid.
Bien sûr.
Et en tout cas, voilà, Madrid est derrière les Bleus. C'est quand même génial.
Ben, mais t'es sûr que t'étais pas dans le 5e arrondissement?
Attends, tu veux que je fasse une photo là pour prouver que je suis bien chez moi à Madrid? Attends, je vais faire une photo.
Non, non, mais
tu ne te justifies pas.
Oui, t'inquiète, voilà, tout va bien. Merci Fred. Bonne soirée.
Adiosticos. Momo, je t'envoie les photos.
Merci Fred.
Autre info autour de l'Euro. Coach, ça va te plaire. Marco Verratti a repris l'entraînement avec ballon, avec la sélection italienne.
Wow.
Voilà, lui qui était touché au genou. Alors, il sera pas disponible face à la Turquie pour le premier match vendredi, mais on espère l'avoir pour le deuxième match de poule contre la Suisse le 16 juin.
Et là, il enchaînera les matchs.
Et, et il va jouer 90 minutes à chaque fois. Ça va, Roland va le rendre,
non,
va le rendre
fou. Mais bon, ça, il fait ce qu'il veut.
Et il sera
veut.
Blessé après.
Et le sélectionneur aussi. Bon, si on n'a pas compris, et les années passent, qu'à 60 minutes, stop. Sinon, après, c'est difficile pour la récupération, mais je ne vais pas à chaque fois le rappeler.
Dans une seconde, on vous dit tout sur Portugal-Israël. La compo des Portugais, des forces en présence pour ce match de préparation. Les Portugais qui seront les troisièmes adversaires des Bleus à l'Euro. A tout de suite sur RMC Top of the Foot spécial Euro, tous les soirs entre 20h et 21h jusqu'au début de la compétition.
RMC 20h-21h Top of the Foot
spécial UEFA Euro 2020. Mohamed Bouafsi, Jean Huitour.
Il est 20h44, c'est Top of the Foot spécial Euro avec Coach Courbis. On est là jusqu'à 21h, énorme after à venir, hein. Juste après 21h, Gilbert Bribois viendra nous donner le programme. Ne ratez pas ça, c'est dans quelques minutes. Et on a une grosse annonce à vous faire pour le Top of the Foot de demain. Donc là aussi, restez à l'écoute. Je vous rappelle qu'on vous offre vos vacances dans un club Bellambra également. Vous pouvez encore vous inscrire en envoyant vacances par SMS au 732-16. Avant de tout vous dire sur Portugal-Israël, où en est Djokovic face à Berrettini, quart de finale de Roland-Garros, Eric Salio.
Bientôt une mi-temps de foot, quoi, 45 minutes de jeu et 5 jeux à 2 pour Novak Djokovic. Mais Berrettini a eu des occasions pour débreaker, mais à chaque fois le Serbe a trouvé la réponse. A noter qu'il s'est un peu chauffé avec quelques spectateurs. Et après, il s'étonne qu'il ne soit pas populaire, Novak Djokovic. Non, mais je ne comprends pas tout.
Très bien, merci Eric.
Tu l'aimes pas, hein.
Portugal-Israël, ça vient peut-être de partir. Benoît Boutron est là pour commenter le match. Salut Benoît.
Salut les amis, Benoît. La première frappe de Ronaldo d'ailleurs. Tiens, à l'instant, même pas une minute de jeu. Et Ronaldo qui frappe déjà, effectivement. Parti depuis 30 secondes. 0-0 Jean-Louis entre le Portugal et Israël.
Alors, donne-nous la compo du Portugal. Ça intéresse grandement Coach Courbis.
Oui, et parce qu'on se rapproche d'une équipe type. On rappelle que le Portugal est dans le groupe de l'équipe de France et que le premier match des Portugais, ce sera face à la Hongrie. Et du coup, c'est un 4-2-3-1 qui a été choisi par Fernando Santos, le sélectionneur, qui a dit que ce serait le schéma qui débuterait à l'Euro avec Silva dans les buts, Cancelo, Pepe, Ruben Dias et le jeune Mendes à gauche. A priori, ce sera Guerrero à sa place lors du début de l'Euro. Ruben Neves et Carvalho à la récupération. Et puis les quatre offensifs, Bernardo Silva à droite, Diogo Jota à gauche, Bruno Fernandes de Manchester United en tant que numéro 10 et évidemment Cristiano Ronaldo à la pointe de l'attaque.
Et Danilo, il est
pas mal ça, Roland.
Ouais, c'est pas mal.
Danilo remplaçant. Parce que, attention avec Ronaldo, on va le suivre. Une nouvelle occasion qui est passée juste à côté. Danilo remplaçant, c'est un des joueurs qui est en balance à voir avec Ruben Neves pour débuter l'Euro, effectivement.
Donc, oui, coach, je lui disais pas mal.
Ah, ça fait pas mal du tout. Ça fait pas mal du tout, cette équipe.
Non, c'est le milieu de terrain qui est un peu léger.
Ouais, mais Bruno Fernandes, c'est pas mal.
Non, le milieu de terrain, je veux dire, les deux du milieu.
Mais Fernandes, ils l'ont mis devant ces deux du milieu. Je pense qu'il leur filera un coup de main quand même.
Ouais, il joue quand même assez haut avec Manchester United, Fernandes.
Il y a une polémique au Portugal, les gars. C'est que le match contre l'Espagne n'a pas du tout plu, puisqu'il y a eu 0-0. C'est le premier match de préparation samedi, donc face aux Espagnols. Ce qui n'a pas plu, c'est que Cristiano Ronaldo, qui est à la pointe de l'attaque, ne défendait pas du tout. Et en fait, la question a été posée à Fernando Santos de dire est-ce que c'est possible au haut niveau d'avoir un joueur qui ne défend pas. Et Fernando Santos a dit c'est la star de l'équipe. Lui ne défendra pas quoi qu'il arrive. Donc ça fait un peu polémique au Portugal. Un joueur comme João Félix, par exemple, qui est plus actif, lui est remplaçant. Donc c'est un peu un problème pour les Portugais pour l'instant.
Oui, bon, c'est Ronaldo, il n'en a pas 50.
Et alors, João Félix, comment on l'incorpore dans ce 11?
Bah, il a joué
à la place de Diogo Jota, peut-être.
Il a joué le premier match, effectivement. Il peut jouer, sinon il faut jouer à deux. En tout cas, quand il a joué contre l'Espagne, il jouait juste derrière Cristiano Ronaldo parce que Bruno Fernandes et les autres mancuniens, que ce soit Manchester City ou de Manchester United, avaient disputé les finales de Coupe d'Europe, donc ils n'étaient pas présents. Mais c'est à ce poste-là qu'il sera utilisé, a priori, lorsqu'il entrera en jeu. Mais je pense que le quatuor offensif qui est là, en tout cas, Nicolas Villas, notre expert portugais, me l'a confirmé cet après-midi, c'est celui qui démarrera, en tout cas. Sachant que la donnée est différente pour les les Portugais que pour nous, parce que eux auront le match à gagner d'entrée face à la Hongrie à Budapest. Ah, ils n'ont pas le droit de se manquer, parce qu'ensuite ce sera l'Allemagne et l'équipe de France à l'Euro, donc il faudra être performant d'entrée de jeu, quoi.
Ouais, il peut y avoir un troisième match très important pour les deux.
Ouais, exactement.
On rappellera quand même que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient. Oui.
Et c'était arrivé au Portugal en 2016 oui, d'ailleurs.
Et ils ont fini champion d'Europe.
Exactement.
Et dis-moi, puisque tu as suivi toutes les polémiques au Portugal, ouais, grâce à Nico, est-ce que le débat autour de Ronaldo et du fait qu'il ne défende pas, c'est aller plus loin en disant, bon, bah, est-ce que le Portugal ne serait pas meilleur sans lui quand tu vois le potentiel offensif?
La question s'était posée il y a quelques mois déjà.
Et surtout vu sa saison qui n'est pas non plus folle, quoi.
Ronaldo, c'est un but sur les 6 derniers matchs avec le Portugal et face au Luxembourg, donc ce n'est pas non plus des performances hallucinantes. Et la vraie question qui a été posée par les journalistes, c'est est-ce que les autres joueurs qui sont stars peuvent digérer justement ce traitement de faveur, et la réponse de Fernando Santos était assez marrante parce qu'il a dit oui, mais c'est Cristiano, donc en fait on ne touche pas à Cristiano.
Il y a aussi autre chose, Benoît, c'est que pour avoir échangé avec des francophones de cette sélection, il est adoré aussi parce que c'est un mec bien dans le vestiaire. En tout cas, avec les autres, c'est un mec bien. C'est pas uniquement un mec qui défend pas. C'est-à-dire que dans le vestiaire, il est toujours avenant. Il se comporte pas comme une star qui est arrogant avec les autres. Et ça aide aussi les autres joueurs derrière lui à faire les efforts
pour lui. Mohamed, ce qui a aussi déplu, c'est que je pense que vous avez suivi ça. Il y a eu cette polémique après le match contre l'Espagne. Il y a eu de la peur au niveau du Portugal parce que Sergio Busquets a été déclaré positif au Covid-19 alors qu'il a joué contre les Portugais. Tous les joueurs ont été testés depuis. Ils ont eu des tests négatifs, mais on sait qu'il y a une fameuse durée d'incubation. Et ce qui n'a pas plu au Portugal, c'est que Cristiano a percé la bulle sanitaire des Portugais pour aller fêter l'anniversaire de ses jumeaux ce fameux dimanche, lendemain de match contre l'Espagne. C'est le seul joueur qui a eu le droit à cette autorisation. Il est parti en Italie rejoindre sa compagne pour fêter l'anniversaire des jumeaux qui ont eu 4 ans. Et ça aussi, ça fait un peu grincer des dents. Dernière chose, effectivement, par rapport au Covid, on rappelle que Gonzalo Guedes, c'était un cas différent de celui que tu disais tout à l'heure, Jean-Louis, avec l'Espagne. Il a été testé positif avant le rassemblement, donc il est arrivé. Il a fait 10 jours d'isolement au camp portugais et là il a réintégré l'effectif de la CLSAO, donc il sera là pour l'Euro, lui.
En tout cas, il y a une belle charnière, hein. Ruben Dias Pep, ça c'est solide.
On va suivre ça. Est-ce que l'utilisation de Ronaldo à la pointe de l'attaque dans l'axe, c'est la bonne solution? Pas sûr. On va le voir balader, de se retrouver côté gauche là, pour après venir vers de l'extérieur vers l'intérieur. Là, je le trouve redoutable. En numéro 9, là, oui, pourquoi pas, on verra.
Sur les premières minutes, là, Benoît, qu'est-ce qu'on retient pour l'instant?
C'est grosse domination portugaise. Il y a d'ailleurs un corner qui va être frappé de la droite vers la gauche par Bernardo Silva. Il y a déjà eu deux occasions, justement, pour Cristiano Ronaldo. Après, l'équipe d'Israël, c'est pas la meilleure équipe israélienne qui a été alignée par le sélectionneur. Et on rappelle qu'Israël a terminé cinquième de son groupe de qualif pour l'Euro 2020, derrière des équipes comme la Pologne, l'Autriche, la Macédoine ou la Slovénie. Donc c'est pas une grande équipe israélienne qui affronte le Portugal ce soir.
Et l'arbitre, c'est Monsieur Pignard.
Exactement, Jérémy Pignard au sifflet.
Très bien.
Au stade du Sporting. Et dernier truc, tu parlais de vaccin.
Oui.
Tous les joueurs ont été vaccinés au Portugal, sauf ceux qui ont contracté le Covid dans les 6 derniers mois.
D'accord.
Voilà, c'est la règle qui a été instaurée au Portugal.
Merci Benoît, on suit ce match tout au long de la soirée, bien sûr sur RMC. François est avec nous. François, bonsoir.
Salut François.
Bonsoir tout le monde.
Salut François.
Les vacances sont calées pour cet été?
Pas encore, mais maintenant elles vont l'être.
Eh oui, ta petite semaine dans un club Bellambra qui vient de tomber, t'es notre gagnant du soir.
Bravo François.
Ouais, je suis trop content, merci à vous tous, c'est génial.
La même question que tous les jours, t'as étudié le catalogue, tu sais où tu vas?
Non, même pas, là j'ai commencé à regarder un peu avant, mais non, mais peut-être tenté par le conseil de Jérôme, même s'il n'est pas là ce soir, elle est encore.
Très bien, à côté de Bastia, effectivement, le club Bellambra. Salut François, bravo à toi.
Merci à vous tous.
Et vous pouvez encore vous inscrire en envoyant vacances par SMS au 732-16.
Votre jeu sur RMC avec Bellambra. Chez Bellambra, mettez votre quotidien en vacances. Plus d'infos sur bellambra.fr.
Pour jouer, envoyez vacances par SMS au 732-16.
Alors l'after arrive dans un instant, Gilbert Bribois va nous donner le programme exceptionnel dans une seconde, mais d'abord on a une grosse annonce à faire, Mohamed, pour le Top of the Foot de demain.
Énorme événement demain, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, accordera un entretien exceptionnel à RMC et BFM TV. Rendez-vous demain avec le président Emmanuel Macron. Il a rendez-vous le midi avec les joueurs de l'équipe de France. Il déjeune avec eux et dans la foulée, le président de la République nous accordera un entretien exclusif où il évoquera toute l'actualité du monde du football. Son objectif fixé au bleu, sa relation avec Didier Deschamps, le retour des supporters dans les stades, les fan zones en France et aussi la compétition du football français et surtout les droits télé.
T'as une question pour le chef de l'État, coach? pour demain.
Bon, non, j'ai réfléchi.
Autour du foot.
Oh, il y en aurait certainement.
Est-ce qu'il aime bien le 4-4 de losange? Non. Est-ce qu'il trouve que c'est une cheminée?
On va pas le piéger.
Jean-Louis.
Non, on va pas le piéger.
Face au président de la République demain, Emmanuel Macron, costume quand même.
Bah, costume, on verra. Non,
cravate.
C'est lui qui va s'adapter à moi, c'est pas
oui,
moi non plus.
Avec ton t-shirt.
Bah écoute, pourquoi pas. Non, on verra, on va s'organiser tranquillement. Et puis voilà, rendez-vous demain, donc, soit sur BFM, soit dans Top of the Foot
rendez-vous à 18h.
Donc, avec le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui nous parlera de son rapport au foot. L'after arrive tout de suite avec Gilbert Bribois. Salut Gilbert.
Salut à tous. Moi j'écouterai dans Top of the Foot, bien sûr. Mais Jean-Louis, reste toi-même.
Oui, merci.
Vas-y Gilbert. Avec un vieux t-shirt H&M, et là tu seras toi-même.
J'aimerais bien, mais j'ai peur que ce soit mal vu quand même.
Avec ton t-shirt Duce, là.
Mon t-shirt vert, là. Pas sûr que ça passe. Pas sûr qu'on me laisse rentrer à Clairefontaine.
Enfin, pourquoi pas. T'as vu comment ils sont fringués, les footeux, quand ils arrivent à Clairefontaine?
Oui, non, non, c'est vrai, mais ils sont pas en face du chef de l'État.
Non, ils sont pas en face du président quand ils arrivent comme ça. Non, nous, on sera en face du président de la République.
Non, là, vous êtes les nouveaux McFly et Carlito, là, vous deux, là. C'est bon, il faut y aller avec un bonnet. C'est ton bonnet, Jean-Louis.
C'est qui est mon premier barrage qui va m'empêcher d'arriver en t-shirt? C'est moi, mec.
C'est moi.
Là, mais pas. Il me laissera pas passer.
Même, ça fait 15 jours qu'il prépare le costard.
Ça fait 15 ans
que je prépare un costard. Tu m'as vu arriver avec un costard il y a 15 ans.
Bon, l'after.
Eh ben, événement également dans l'after, puisque dans quelques instants, Maxime Saada, le patron de Canal, sera avec nous. Maxime Saada, en vrai, c'est un peu le patron du foot français aujourd'hui, hein, parce qu'il tient le foot français dans la main.
Il est courageux quand même, parce que la semaine dernière, vous avez été dur avec lui.
On a dit que la vérité. Donc, on va pouvoir justement débattre avec lui dans quelques instants. Comment voit-il l'avenir? Où en sont les négociations concernant les droits et tout le reste de l'actu foot, bien sûr, avec Maxime Saada, le big boss du foot français dans quelques jours.
Je suis prêt, c'est là.
Énorme after donc jusqu'à minuit. Et ne ratez pas donc Top of the Foot demain, 18h, avec Emmanuel Macron en invité exceptionnel.
Retrouvez Top of the Foot en podcast
dès maintenant sur rmc.fr.